last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
C'est la dernière ligne droite pour la 25e édition du Arras Film Festival organisé par l'association Plan Séquence. On terminera par un agenda du jour avec quelques rencontres en compagnie des équipes des films et notamment en compétition européenne. Une interview avec Antoine Bess, le réalisateur de l'avant-première Oli, film tourné en région Hauts-de-France. Entretien réalisé par Gaston, étudiant de l'Université d'Artois. Mais tout de suite, on retrouve Patrick qui nous propose une chronique sur une autre avant-première. Le choix du pianiste.
Un extrait du concerto pour piano numéro 1 de Frédéric Chopin pour débuter cette chronique autour du film de Jacques Haute-Mesguin, Le choix du pianiste, projeté lors de l'Arras Film Festival édition 2024. Dans une famille bourgeoise, les Touraines, au début du XXe siècle, il est de bon ton que la fille apprenne à jouer du piano et que le garçon fasse du sport et des études. Mais que faire de ces choix lorsque la fille Thérèse est peu douée pour la musique ? Alors que François a l'oreille absolue et veut jouer du piano. Résister, tel le père, pour qui la musique n'est que de la sensiblerie. Céder, tel la mère qui décide de faire prendre en cachette des leçons particulières auprès de Rachel, professeur de piano, qui a très vite décelé les dons de François.
Quelqu'un m'a reconnu. Une admiratrice d'avant la guerre. Elle s'appelle Annette. Elle voulait tout savoir sur moi.
C'est votre professeur.
Il s'appelle Rachel.
Attaque. Votre mari a tort. François est né pour la musique.
Vous voulez quand même pas faire de mon fils un pianiste. Ce n'est pas avec Mozart et Chopin qu'on apprend la comptabilité et le commerce.
Mais j'aime le piano.
Toi, tu te tais.
Marguerite Lond a recommandé à Paul Paret.
Le grand chef des concerts colonnes.
Si tu me dis que le concert s'est mal passé et que Paul Paret ne te garde pas, je me jette dans la scène.
Je veux pas que tu l'oublies. Rachel.
Ainsi commence, dans les années 30, une carrière de pianiste pour François et une histoire d'amour avec Rachel. Mais Rachel est juive et sa famille la presse de quitter la France alors que les exactions commencent en Allemagne et menacent de s'étendre à toute l'Europe. Rachel, par amour, n'a pas pu quitter François, mais elle va se retrouver victime d'une rafle et enfermée au camp de Drancy. François reprend alors contact avec Thérèse, sa sœur, qui a intégré le Parti populaire français de Jacques Doriot, un mouvement collaborationniste, dans l'espoir de sauver Rachel.
Je ne peux pas me comprendre. Elle m'a tout pris.
Arrête. Je n'arrive à rien. Il est froid, ce piano.
Rachel !
Tu peux pas vivre avec cette femme qui a été comme ta mère. On ne couche pas avec sa mère.
Où est-ce ? Oh, mon fils.
Je dois quitter Paris.
Quitter Paris ? Je crois que la Philharmonie de Berlin cherche un pianiste.
Il veut que l'art serve la propagande.
Qu'as-tu à te reprocher ?
On arrête les Juifs dans Paris.
On n'est pas un peu. On est collabos, on n'est pas.
Vous avez laissé parler votre cœur.
Mais vous, vous avez joué pour Hitler.
Nous allons sortir votre Rachel de Drancy.
Mais bougez pas d'ici !
Mais rien n'est gratuit dans ce monde.
La femme qui t'obsède jour et nuit, que tu dois régler tes comptes.
Quand elle fait de mal,
ce sont des Juifs.
Une négociation est alors proposée par les autorités allemandes. Rachel quittera le camp de Drancy sans que François ne puisse la voir, contre l'obligation faite à François d'aller jouer du piano à l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de von Karajan, passé sous la coupe du nazisme. François, pour sauver Rachel, accepte ce compromis, mais cela sera-t-il suffisant pour sauver celle qu'il aime ? Impossible d'en dire plus sans dévoiler l'histoire de ce film d'amour situé en pleine période de troubles de la crise des années 30 et des années d'occupation nazie marquée par l'antisémitisme permanent. La musique de Chopin est au cœur du film, une musique qui est plus forte que la mort, comme le dit Rachel. Mais nul besoin d'être un mélomane averti pour apprécier ce film qui sortira en salle le 29 janvier 2025, une date à retenir si vous n'avez pas pu le voir lors de l'Arras Film Festival.
Mais qu'est-ce qui peut naître de nous à part la musique? On ne vit que pour elle.
Je vous propose à présent l'interview en compagnie d'Antoine Besse, le réalisateur de l'avant-première Oli, film tourné en région Hauts-de-France. Un entretien réalisé par Gaston, étudiant de l'université d'Artois.
Ah, presque.
Je croyais que tu faisais pas de skate. Hein? C'est quoi ça?
C'est une trompette.
Je peux? Je vais pas la manger, t'inquiète.
Bonjour Antoine, merci du coup de nous consacrer ce temps pour la radio PFM. J'ai vu ton film Oli lundi, et donc c'est ton premier long métrage. Ta première réalisation, donc elle remonte il y a 10 ans maintenant, c'était en 2014, et c'était aussi sur le skate. Donc d'abord, je voudrais déjà savoir si le skate c'est important dans ta vie, est-ce que tu en pratiques?
Alors déjà, merci de m'accueillir à PFM Radio, c'est ça? Ah, j'ai bien retenu. Pour répondre à ta question, le skate c'était important dans ma vie. Ça l'est plus forcément de la même façon, dans le sens où moi je skate plus, je me suis un peu tout cassé, ça m'a un peu calmé à un moment donné, donc j'ai un peu arrêté. Par contre, la culture skate et la culture surf sont restées vraiment, alors même si c'est pas tout à fait les mêmes, c'est deux trucs que j'ai toujours pratiqué. Le surf, je continue à en faire beaucoup. En habitant à Paris, on va pas se mentir, c'est un peu moins régulier que quand j'habitais sur la côte, mais ça reste quelque chose de très important. Mais surtout, ce qui était important pour moi, c'est de continuer à en parler, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux choses. D'une, il y a les passions de glisse. C'est pour moi quelque chose de très important. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup été important pour moi. Et je me suis rendu compte que ça a fédéré beaucoup de communautés d'amis autour. On avait tous un peu les mêmes profils de ça se passait pas trop bien à la maison, et on se retrouvait entre nous, et d'un coup, on oubliait un peu tous nos problèmes. Et je pense que c'est tous les sports peuvent le faire, mais en tout cas moi dans la glisse c'est important, parce que c'est là où moi je me suis retrouvé, et c'est dans ces milieux-là que j'ai grandi. Et aussi parce que je pense que c'est important de parler de comment les cultures urbaines sont réappropriées à la campagne. Typiquement le skate, mais ça peut être aussi le rap ou plein de trucs comme ça qui pendant des années c'était des trucs qui appartenaient aux villes, alors qu'en fait pas du tout. Et voilà, et nous c'était de montrer aussi comment on peut se le réapproprier à la campagne avec des bouts de bois et des bouts de métal.
Ouais, donc bah ça c'est aussi du coup un détail que j'avais noté, c'est du coup bah dans le monde rural, donc en fait de faire un peu du monde qui nous entoure un skatepark en fait. Donc toi c'est une situation que t'as vécue personnellement?
Ah, clairement, ouais. En fait, on était. Moi, quand j'ai déménagé, j'habitais dans les Landes et on a déménagé en Dordogne. Il n'y avait absolument rien à l'époque, il n'y avait même pas de skatepark à Périgueux, je crois. C'est la Allboard Family, c'était Jérôme Masson qui se battait pour avoir un skatepark. On a eu un skatepark à un moment donné, mais qui était quand même pas fou. Et du coup, ce que faisait la Allboard, c'est qu'ils construisaient eux-mêmes leurs modules, tu vois, avec des plus bois récupérés, des trucs en mode do it yourself. Et il y avait un stock de modules et c'était assez génial parce que tous les week-ends, il organisait des sorties où tu pouvais aller poser les modules et tu skatais. Il y avait des skateparks improvisés un peu partout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez génial à l'époque et puis qui a été toute une partie de mon adolescence, en fait, tout simplement. Et qui, c'est des souvenirs extraordinaires parce que je pense qu'on a vécu un skate qui n'était pas démocratique, mais qui était l'essence même du skate, en fait, avec tout ce côté punk et puis on emmerde le monde et on fait ce qu'on veut, quoi.
Je vais rebondir du coup sur juste ce que tu viens de dire par rapport à ce côté peut-être fédérateur du skate où vous étiez un groupe. Du coup, on voit qu'il y a dans ton film vraiment un groupe de skateurs et on voit à côté qu'il y a Pierre. Mais est-ce que pour toi, l'attitude de skate, elle peut vite se dériver un peu comme on voit dans le film où en fait c'est vraiment des trucs à la con et puis ça devient du harcèlement sur Pierre. Est-ce que pour toi c'est un danger majeur un peu de cette attitude un peu trop cool, enfin peut-être trop on emmerde justement le monde, je sais pas.
Alors c'est une très bonne question. Moi je pense qu'il y a deux trucs. Il y a le harcèlement, il est pas du tout ou la violence, elle est pas du tout liée que au skate. Hein. Je pense que c'est dans tous les univers. Je pense que malheureusement, en fait, je dirais école, collège, lycée, c'est d'une violence extrême. Quand moi à mon époque, je suis né dans les années 90. Il y avait internet, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je pense que là, à l'heure actuelle, t'es au collège ou t'es au lycée, tu te fais harceler, tu rentres chez toi, ça s'arrête jamais. Moi, ça s'arrêtait. Il y avait un truc où. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est terrible, mais qui n'est pas forcément lié au skate. En revanche, là où je pense que t'as raison, c'est que le skate, c'est quand même un milieu assez, assez fermé, assez élitiste. Et tu sens qu'il y a un truc de test énorme. Et c'est vrai que moi, je sais que c'est des scènes vraiment que j'ai vécues où je me disais, je peux pas aller au skatepark tant que je sais pas faire au moins un ollie ou un flip. Et je m'entraînais comme un branque parce que je me disais, je peux pas arriver là-bas. C'est un peu comme une cartouche que tu grilles. T'as tout le monde qui te regarde, personne s'est quitté, tout le monde te regarde de haut. Et ça, par contre, c'est un truc qui est, surtout quand t'es arrivé, t'as emménagé, personne te connaît. Et puis moi, j'étais assez timide du coup avec tout ça. En plus, j'avais vécu du harcèlement à l'école quand j'étais arrivé. Bref, tout mélangé, j'étais en mode ah, il faut que je sois fort avant et je m'entraînais de mon côté. Et donc oui, je pense qu'il y a quand même un truc dans, mais c'est pas forcément que dans le skate. Je pense que c'est un peu dans tous ces sports très individuels de glisse ou en tout cas de performance où on t'admire. Typiquement le surf, la danse. En fait, vraiment, c'est important. Les sports collectifs sont différents là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence, hein. Mais c'est différent. Je pense que les sports individuels comme ça, où le but c'est la performance égotique, là il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui est un peu toxique, un peu malsain, où on écrase vite les gens. Et je pense que le film le raconte, mais raconte surtout ce que c'est que l'horreur du harcèlement quand tout le monde se met contre quelqu'un, et à quel point ça peut te bouffer ta vie, et à quel point les agresseurs en plus s'en rendent pas compte. Parce que pour eux c'est rigolo, c'est tout.
Bah justement, t'as parlé un peu que t'as vécu du harcèlement. Est-ce que tu te retrouves un peu en Pierre dans le film? Pas du coup entièrement ce qu'il vit, parce que y a aussi beaucoup les réseaux sociaux, on les voit beaucoup dans le film, donc c'est une autre époque, comme tu l'as dit. Mais est-ce que c'est quand même du coup inspiré de toi un peu parfois ce que t'as vécu?
Inspiré, c'est le bon mot. C'est pas du tout une autobiographique, ça c'est une certitude. Mais en effet, c'est hyper inspiré. Après, moi, c'est pas arrivé du tout dans le milieu du skate, c'était arrivé parce que j'étais à l'école et que. Je sais plus pourquoi il y avait un mec qui avait décrété d'un coup que j'étais un intello. C'est à l'époque je lisais beaucoup et je devais sûrement trop ouvrir ma gueule, j'en sais rien, tu vois, mais t'es petit, tu fais pas trop gaffe et d'un coup t'as tout le monde qui se lie contre toi, tu comprends pas trop pourquoi. Et tu n'as plus de porte d'accès. Tu ne peux plus te justifier, tu peux plus discuter, les gens ils ont fermé, ils se foutent de ta gueule et là ça devient terrible. Du coup ça moi c'est quelque chose que j'ai vécu et que je voulais retranscrire à l'image. Parce que pour l'avoir vécu c'est quelque chose de très violent et qui te rend très seul. Et ce que je trouvais intéressant c'était de le faire rencontrer un personnage seul, infréquentable. Mais qui en fait est un bon gars, c'est juste que t'as d'un côté un enfant, enfin un adulte dans un corps d'enfant, Pierre, parce qu'il est quand même très mature et il subit, et il vit des trucs pas faciles, le deuil de sa mère, plein de trucs. Et à côté t'as un éternel adolescent de 30 ans qui est complètement détruit par la vie. Et je trouvais ça trop bien parce qu'ils étaient très complémentaires. Il y en a un qui est muti, qui bouge pas, et l'autre il est tout dégingandé, il en fait des caisses. Et je trouvais que les deux, du coup c'était un aimant un peu logique en fait entre les deux.
Du coup, ouais, on voit un peu Pierre qui a il y a un peu deux personnages en fait. C'est qu'il y a Pierre et puis il y a, comme Bertrand il l'appelle, Pierrick. Et même en fait dans sa manière d'être, dans sa manière de s'habiller, même en fait on voit, même on fait des remarques quand il est au collège et on dit il est habillé tout skinny et tout ça. Et à côté, plus il prend confiance en lui, il s'habille large et tout ça. Est-ce que c'était un souhait de ta part qu'il y a un peu deux personnages, il y a un peu Pierre et Pierrick qui donc sont joués par Christine?
Complètement. Et puis je pense qu'on l'a tous vécu ce truc-là. Bon, moi le collège maintenant c'est loin. Mais je me rappelle très bien à l'époque, je crois que je m'étais acheté un survêt Academics parce que c'était la mode de 50 Cent et tout. Et genre, je le trouvais trop stylé en vrai. Mais je savais même pas comment aller au collège, c'était au collège avec. J'avais peur qu'on se foute de ma gueule, machin. Et je pense que Pierrick c'est la version aboutie de Pierre. Et je pense qu'il met tout le film à y arriver, mais à la fin, c'est ça qui est assez génial. Il s'en fout, il est juste lui. Il fait plus attention au regard des autres parce que il sait qu'il a Bertrand. Et c'est parce qu'il il n'est plus seul, en fait. Mais c'était très important, en effet, que Pierre accepte de devenir Pierrick, surtout. Avec tout le côté drôle qu'il y a derrière aussi.
Je vais revenir sur quelque chose d'autre. C'est dans le film, donc au tout début, la première scène, c'est Bertrand qui sauve un chien qui se faisait maltraiter. Et ce chien, on le revoit souvent, mais les personnages, eux, ne le voient pas. Après, il y a en fait une histoire avec ce chien tout au long du film. Donc, est-ce que pour toi, il y a un côté un peu métaphorique par rapport à ce chien ? Est-ce qu'il y a même, en fait, il y a une espèce de force que tu as voulu montrer, comme quoi, finalement, peut-être que Pierre et Bertrand étaient faits pour se rencontrer. Qu'est-ce que tu as voulu montrer en fait, à travers ce chien ?
Je pense que tu as tout dit et que je ne vais pas en dire plus parce que j'aime bien que chacun interprète cette image à sa façon. Mais oui, ça reste une métaphore, oui, c'est une image. Et je vais juste donner un petit indice, pour moi, c'est l'image du deuil. Mais je pense que ce que tu as vu, et c'est très bien aussi. Il y a des gens qui ne voient pas ça, et je pense que c'est très important de laisser les suggestions. Moi, tu as vu, je laisse beaucoup de suggestions. Je coupe souvent beaucoup avant qu'on voit les trucs. Tu ne vois jamais le bisou, tu ne vois jamais la piqûre, tu ne vois jamais vraiment l'accident. J'aime bien suggérer, je suis assez pudique dans ce que je fais. Je ne suis pas un très bon réalisateur de choses, on va dire, très monstratives. Je suis pas très bon là-dedans. Il y a des gens qui le sont. Moi, je trouve ça très vite grossier. En tout cas, moi, ça me réussit pas. Donc, je vais te laisser avec l'interprétation, mais je pense qu'elle est très bien, ton interprétation.
Merci. Tu tournes, du coup, avec le personnage principal, c'est Pierre. Voilà, je ne sais pas à quel âge il a exactement, mais bon, il est au début de l'adolescence. Est-ce que c'est compliqué de peut-être tourner avec des jeunes comme ça ?
Alors, c'est dur et c'est génial. Parce que je pense que j'ai une chance, c'est que je suis très... j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le ciné, je passe beaucoup de temps à écouter du son et tout. Et sans vouloir du tout jouer le jeune, hein, je sais très bien que j'ai 30 ans passés et que voilà, tu vois, je vais pas... Je sais que je suis un vieux jeune, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, ce que je trouve qui est bien, c'est que je m'entends bien avec les ados et je kiffe parler avec eux parce que je trouve ça très important de pas se déconnecter de la jeunesse. Et moi, quand j'étais ado, en tout cas jeune étudiant, j'étais dégoûté qu'il n'y ait pas de film pour les gens de mon âge. C'est-à-dire que soit des trentenaires, parce qu'en fait, c'est dur de faire un premier film avant 30 ans, on va pas se mentir. T'en as, mais c'est dur. Parce que le temps que tu apprennes la fabrication, que tu fasses un premier cours, un deuxième cours, que tu écrives ton nom, ça prend 10 ans en fait. Donc c'est rare. Il y en a, mais c'est rare. Et je pense qu'il y a un truc, c'est qu'en fait, du coup, j'ai toujours voulu rester connecté à la jeunesse. Et puis il y a plein de codes que je peux avoir. J'écoute beaucoup de musique, j'écoute de tout, mais j'écoute du rap aussi. Et je sais qu'on se fédérait beaucoup autour de ça. J'ai skaté longtemps, donc j'avais les mêmes codes. Donc tu vois, typiquement, en fait, les jeunes que j'ai, avec lesquels on a travaillé, on parlait de musique, on parlait de skate, on parlait de plein de trucs. Il n'y avait pas vraiment, à part les années d'écart, qui ça sont réelles, le reste, il n'y avait pas vraiment de frontières, tu vois. Le fait qu'ils étaient des fois un peu cons aussi, mais ça c'était autre chose. Mais moi aussi, je peux être con. Et c'est un travail surtout assez fascinant parce que ça te permet de comprendre aussi comment on le travaille avec eux. Il n'y a personne qui était comédien. Ils étaient tous ce qu'on appelle du casting sauvage, qui venait de skateparks différents. Le seul impératif, c'est qu'ils skataient bien. J'avais besoin qu'ils skatent bien, qu'on n'ait pas de doublure, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on les a choisis et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'était... c'était super intéressant parce qu'il y avait... Enfin, je sais pas, c'est cool de bosser avec des ados. Ils sont drôles, ils sont spontanés. C'est mieux qu'avec des adultes qui peuvent des fois être plus fermés, plus professionnels, mais du coup, avec plein de codes, plein de tics, c'est moins agréable.
Ton film, il aborde quand même beaucoup de sujets, hein, comme la mort d'un parent, la précarité aussi dans le monde agricole. Est-ce que pour toi, le skate ou même juste le sport, ça peut... Parce que en fait, ça semble venir, je ne vais pas dire tout résoudre, mais quand même à la fin, on ne sait pas vraiment ce qui se passe encore à la fin, c'est encore une fois un peu ouvert. Est-ce que pour toi, ça vient... le sport ou le skate peut venir un peu régler les problèmes d'une vie ou alors juste s'échapper ?
Je pense les deux, mais que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que je pense que le sport peut te permettre de t'évader, de te rythmer, de te canaliser, d'avoir une vie plus saine même. Je pense que ça te permet en effet de régler des problèmes du coup, d'une certaine façon. Mais ça ne réglera pas tous les problèmes. Et typiquement le skate, ça va être dur d'en faire toute ta vie. À l'adolescence, on en fait énormément, on fait que ça même. En tout cas, quand on est pris de passion. Après, il faut faire un choix, soit tu deviens pro, soit tu te mets à bosser dans un skate shop, soit... Mais il va falloir faire un choix de vie aussi, parce que malheureusement, il faut... C'est un peu la dure loi de l'âge adulte, mais tu dois travailler, tu dois gagner tes sous, enfin t'es plus sous la coupe de tes parents et faut être autonome et indépendant, et d'ailleurs c'est quelque chose de très beau aussi, mais du coup je pense que c'est des bons moyens d'évasion. Je pense que la passion est nécessaire dans la vie, en tout cas pour moi, pour plein de raisons, mais je pense pas que c'est une fin en soi. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Il y a, pour régler ses problèmes ou avancer, il n'y a pas que les passions.
C'est un choix de vie que Bertrand un peu n'a pas fait.
C'est une très bonne réflexion. Je pense que Bertrand, en fait, le problème, c'est qu'il a... Bon, il a vécu un truc très dur. Hein. Je vais pas spoiler le film, donc je vais pas dire ce qui s'est passé, mais je pense qu'en fait, il a oublié à un moment donné que sa passion pouvait l'aider. Et c'est Pierre qui le ramène aussi à ça, et on sent que ça l'aide. Ça veut pas dire que ça le sort de ses problèmes, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, on sent que ça le recanalise et ça le remet, entre guillemets, sur un peu un droit chemin. Même si, bon voilà, il restera... On sait pas ce qui va devenir. C'est ça que j'aime bien avec ce dernier plan du film, c'est qu'il est autant métaphorique que réel, quoi. On se dit, bon bah, il est sur un chemin, lequel, on sait pas, mais en tout cas, c'est positif.
Et du coup, peut-être juste une dernière question. Ta figure préférée en skate, c'est le Holly ou une autre?
Non, disons que c'est une figure qui est importante, parce que c'est la première que tu maîtrises et tous les autres tricks se déclinent, enfin pas tous, mais beaucoup se déclinent du Holly. Et sinon, non, moi, mon trick préféré que j'adorais, c'était le trait ou le 3-6 flip, que j'aimais beaucoup.
Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview très prochainement sur le www.radiopfm.com. On termine ce magazine avec quelques séances avec invités pour ce vendredi 15 novembre à 16h au Casino Salle 1, Mon Inséparable de Anne-Sophie Bailly, proposé en avant-première, tourné dans la région des Hauts-de-France et qui évoque une relation qui vacille entre une mère et son fils déficient intellectuel et qui pose également question sur le handicap et l'émancipation. Rencontre avec la réalisatrice et l'acteur Charles Peccia-Galetto à l'issue de la projection. En salle 3 du Mégarama, focus sur un invité d'honneur, l'acteur serbe Miki Manojlovic, qui présentera un classique du réalisateur Emir Kusturica, Underground, un film en deux parties. La première, c'est à 18h, ça fait quand même 2h38, et la seconde, c'est le même temps et ça sera à 21h. A noter que Miki Manojlovic donnera une leçon d'acteur à 14h30, amphithéâtre Winston Churchill de l'Université d'Artois. À 18h30, toujours au Casino, mais en salle 2, dans la section Découvertes européennes, 20 dieux de Louise Courvoisier, un film qui parle de fromage, en compagnie d'un jeune garçon de 18 ans qui vit dans le Jura et se met en tête de fabriquer le meilleur comté de la région. Rencontre avec la réalisatrice après la séance. À 18h30 également, en salle 1 du Mégarama, The Hunt for Metal Who, film en lice pour la compétition européenne proposée par le réalisateur néerlandais Stig Bouma et qui évoque l'histoire d'une mère célibataire accusée à tort de fraude fiscale, un immense scandale qui a touché des milliers de foyers aux Pays-Bas. Rencontre avec le réalisateur et le co-scénariste à l'issue de la projection. Dans la section Découvertes européennes, toujours à 18h30 en salle 2 du Mégarama, le film italien Io e il Secco de Gianluca Santoni. Ce premier long métrage évoque un jeune garçon de 10 ans qui décide d'engager un tueur à gages pour éliminer son père qu'il juge trop violent. La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur. À 21h, retour en salle 1 du Mégarama pour un autre film en lice dans la compétition européenne avec Honeymoon de la réalisatrice ukrainienne Zana Orzina. Un huis clos avec un jeune couple piégé dans leur nouvel appartement à Kiev car l'invasion russe a commencé. Et vous aurez l'occasion d'échanger et de discuter avec la réalisatrice à la fin de la projection. Et enfin, on repart au Casino d'Arras, à salle 1, à 21h pour une avant-première, Planète B de Aude Léa Rapin qui nous projette dans la France de 2039 et dans une dystopie passionnante sur les dérives actuelles par le biais d'un thriller politique et de science-fiction. Rencontre avec la réalisatrice et deux acteurs du film après la séance.